Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. En quelques semaines, les Américains s'engagent massivement dans l'armée. Leur président, Woodrow Wilson, les a convaincus de donner leur sang pour défendre la démocratie. Pourtant, un an plus tôt, ce même président leur avait promis que l'Amérique n'entrerait jamais en guerre.
Quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a fait campagne en 1916, son slogan était « Il nous a évité la guerre ». C'était l'idée que le conflit était une affaire européenne et qu'il n'avait rien à voir avec la démocratie américaine. Donc, quand les États-Unis se sont préparés à entrer en guerre, ça a posé un gros problème.
Wilson veut imposer ses choix par la force. Mais à la Maison-Blanche, certains préconisent une autre solution.
Plusieurs conseillers de Wilson ont dit « Nous pouvons créer un système, grâce au pouvoir de la propagande de masse, qui aura pour fonction de séduire le peuple pour le faire adhérer à l'effort de guerre. »
Il faut mettre sur pied un arsenal mental. Il faut construire une machinerie qui vendra la guerre au peuple américain, qui fera la promotion de la guerre.
Elle s'inspire des codes de la publicité et du divertissement, notamment du plus populaire d'entre eux, le cinéma. Pour orchestrer cette immense machine, Wilson a mis en place un département spécial, la commission Krill. Elle rassemble des professionnels de la communication, journalistes, publicitaires, agents de presse. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans qui s'est déjà construit une solide réputation de publicitaire dans le domaine du divertissement. Il s'appelle Edward Bernays. Comme la plupart des membres de la commission, il partage une vision des foules très répandue parmi les élites dirigeantes des pays occidentaux. Cette vision repose sur des théories exposées à peine 20 ans plus tôt par le français Gustave Le Bon. Dans son livre « La psychologie des foules », il décrypte le comportement spécifique des masses.
L'idée de base était que les gens étaient incapables de penser rationnel. C'était impossible de leur parler et de raisonner avec eux. Ils étaient des microbes. Ils se comportaient comme un virus. Des animaux à la merci de leur moelle épinière. Il a présenté l'anatomie d'une foule comme un groupe d'individus privés de capacité de raisonnement.
Puisque la raison n'a pas d'effet sur les foules, il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leurs instincts.
On est très vite arrivé à l'utilisation d'approches psychologiques pour tenter de court-circuiter toute pensée critique et toucher les gens aux tripes.
Diaboliser la figure du un germanique. C'est comme ça qu'on a eu des histoires fictives, comme les bébés embrochés sur des baïonnettes en Belgique.
Beaucoup à l'utilisation de symboles très puissants et profondément enracinés dans les esprits pour dégrader le sens du message véritable et se focaliser sur le ressenti.
L'effet de convertir très rapidement une population pacifiste en fanatique anti-allemand. Par exemple, l'orchestre symphonique de Boston ne jouait plus de Beethoven parce qu'il ne voulait pas être associé à cette hideuse monstruosité. La commission Krill a été très efficace.
Pour les grands capitaines d'industrie de l'époque que sont les Rockefeller, les Carnegie ou les J.P. Morgan, le succès de ces méthodes de propagande ouvre des perspectives qui arrivent à point nommé.
La montée en puissance du capitalisme industriel, aux États-Unis, mais aussi dans tout le monde industrialisé, a provoqué une certaine paupérisation.
Dans les mines, les usines et les aciéries, les ouvriers étaient à peine mieux traités que des serfs. Les syndicats étaient brisés et bannis. Il y avait un bras de fer entre, disons, les masses et les oligarques.
L'avantage des dirigeants de ces grandes entreprises, c'est qu'ils volaient les ressources du reste de la société en accumulant des profits pour eux-mêmes.
Le secteur des entreprises était paniqué à l'idée de voir son monde s'écrouler.
Les méthodes de la commission Krill leur apparaissent comme des solutions idéales pour mettre fin aux revendications sociales. S'il a été possible de faire adhérer les Américains à la guerre sans remettre en cause les principes démocratiques, il doit être possible de faire adhérer les classes ouvrières au modèle de société qu'ils ont toujours rejeté, le capitalisme. En 1919, Edward Bernays installe ses premiers bureaux à New York, l'un des principaux lieux de pouvoir du pays. Pour définir son rôle auprès de ses futurs clients, il choisit d'utiliser le titre de conseiller en relations publiques.
Le terme « propagande » était devenu péjoratif, donc ils en ont inventé un autre. Edward Bernays a toujours été très clair à ce sujet. Il s'attribuait la paternité du terme « conseil en relations publiques ». Le but était de donner un nouveau souffle à la propagande en changeant son nom. C'est une vieille technique de relations publiques ou de propagande. Si une chose est impopulaire, il suffit de l'appeler autrement, ni vu ni connu.
Edward Bernays est influencé par Walter Lippmann, journaliste et écrivain, l'un des plus grands intellectuels américains de l'époque. Cet ancien conseiller de Woodrow Wilson envisage la propagande comme le seul véritable outil de contrôle des foules. Une idée à laquelle il consacre un ouvrage qui révolutionne les principes de gouvernance en démocratie, l'opinion publique.
Les gens responsables, c'est-à-dire nous, doivent prendre les commandes et être protégés contre le troupeau en furie qui risque de les piétiner en vociférant.
Ces nouveaux spécialistes des relations publiques, pour la plupart issus de la commission Krill, sont embauchés par les plus grandes entreprises de l'époque. Charge à eux de convaincre l'opinion que la prospérité des entreprises privées bénéficiera à l'ensemble de la population. Transformer le citoyen en consommateur. Acheter ne doit plus relever du strict besoin, mais du désir.
Notre économie perdait la tête. On bâtissait de grosses entreprises et on essayait de convaincre les consommateurs d'acheter tous les produits que les entreprises étaient impatientes de produire.
Le capitalisme avait besoin de faire son autopromotion et de vendre au peuple l'idée que le capitalisme et non le socialisme allait lui fournir une vie meilleure.
Edward Bernays sera un maître en la matière. Une de ses premières réussites est une campagne réalisée pour le compte de la Beechnut Company, célèbre producteur de bacon.
Ils voulaient être le plus gros producteur de bacon des États-Unis. Traditionnellement, une entreprise aurait juste essayé de faire mieux que la concurrence et dit « notre bacon est meilleur que les autres ». Mais Eddie Bernays a dit « non, ce n'est pas comme ça. Il faut agrandir le marché pour tout le monde ».
Les leaders d'opinion. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence de l'une des professions les plus respectées de l'époque, les médecins. Sans qu'ils le sachent, ils vont relayer auprès de leurs patients un message qui sert une cause strictement commerciale.
L'idée de suivre les conseils d'un leader d'opinion ou d'une figure d'autorité est la base de notre travail de relations publiques.
Totalement acquis aux thèses de Sigmund Freud, il fait traduire ses premières œuvres aux États-Unis. Mais les liens qui les unissent dépassent de loin le cadre strictement professionnel. Edward Bernays est le double neveu de Freud.
Que Bernays a repris de Freud, c'était que les gens pensent être gouvernés par leur propre opinion et leur pensée rationnelle. Alors que non. Ils sont soumis à leur inconscient et leur subconscient sans même le savoir. Donc il faut contourner leur logique.
Seuls les hommes sont autorisés à fumer dans les lieux publics. On confie à Edward Bernays la mission de faire des femmes des consommatrices de tabac, comme les hommes.
Il est allé voir l'un des disciples de son oncle Sigmund, un certain E. E. Brill. Il lui a dit, Brill, J'essaie de vendre des cigarettes aux femmes. Qu'est-ce qu'elles représentent? Et Brill a répondu, c'est simple, les cigarettes sont le pénis. Et toutes les femmes veulent un pénis. Donc si vous pouvez leur en donner un, même s'il est juste symbolique, ça leur plaira forcément.
On était à l'époque de la lutte des suffragettes pour le droit de vote à partir de 1919. Dans les années 20, les femmes étaient déterminées à se battre pour leurs droits.
Il a donc enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque. Il les a persuadées que ce serait un coup d'éclat. Bien sûr, pas officiellement pour le cigarettier qui était son client, mais pour la libération des femmes.
Pour lancer sa campagne de communication, Edward Bernays a l'idée d'utiliser comme tremplin médiatique un événement populaire, la célèbre parade annuelle des fêtes de Pâques à New York.
Il a donc eu ces femmes défilant sur la 5e avenue en allumant des cigarettes, qu'il a surnommées les torches de la liberté. Et pour s'assurer que l'événement allait faire du bruit, il a recruté des photographes des grands journaux et des agences de presse du monde entier pour l'immortaliser.
Des circonstances qui se démarquent de la norme sociale et qui par conséquent attirent l'attention. Donc, le rôle d'un responsable des relations publiques, c'est de comprendre ce qui a l'air d'une info intéressante, ce qui en a le goût, ce qui en a l'odeur.
Depuis toujours, notre cœur de métier, c'est de créer de l'info. Et pour faire du bruit dans les médias, il faut bien sûr être nouveau et être le premier. Personne ne se souvient du deuxième homme sur la Lune.
Ils sont même parvenus à changer l'image des grands capitaines d'industrie. John Rockefeller lui-même n'est plus considéré comme un représentant haï du capitalisme, mais au contraire comme un philanthrope. Les agences de communication prospèrent, en particulier sur l'avenue Madison, appelée à devenir l'un des hauts lieux de la publicité aux États-Unis. Edward Bernays est devenu un professionnel incontournable des relations publiques. Il vit désormais dans la suite d'un hôtel luxueux où il reçoit tout ce que le pays compte d'hommes puissants et influents.
La plupart des gens ignoraient qui c'était. Mais ceux qui avaient besoin de le connaître et qu'il avait besoin de connaître, le connaissaient.
En 1929, Edward Bernays publie Propaganda, le fruit de 10 années d'expérience. Il y expose avec précision les grands principes et les techniques de manipulation des foules en démocratie. L'ouvrage fait de lui un visionnaire.
Ce type d'aveu est la preuve de l'immense pouvoir de la propagande. Même quand le marionnettiste avoue, ceux qui sont manipulés ne peuvent pas lui résister.
Les nazis étaient très impressionnés par la propagande commerciale américaine développée par Bernays et l'industrie des relations publiques. Goebbels l'a étudié de près, y a fait référence et l'a adapté aux objectifs nazis avec beaucoup de succès, malheureusement.
Le krach boursier du 24 octobre 1929 fait voler en éclats l'équilibre apparent du modèle de société capitaliste des années 20. Les États-Unis plongent dans une dépression économique sans précédent, qui jette sur les routes américaines des dizaines de millions de personnes sans emploi.
Les entreprises que les relations publiques avaient tant vendues dans les années 20 étaient vues comme l'incarnation du diable.
Franklin Roosevelt apparaît comme l'homme qui peut tout changer. Néanmoins, il sait que pour gagner la confiance du peuple, la question du consentement des foules est déterminante.